France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Parfois, on exagère un petit peu, mais c'est une légende vivante que nous avons l'honneur de recevoir ce matin sur France Musique dans le studio en direct. Good morning, John Adams.
Good morning.
John Adams, vous ne parlez pas français ?
It's been a long time, so I'm very good at English.
Mais ça fait longtemps et donc je suis nettement meilleur en anglais.
À vos côtés pour assurer votre traduction, mais aussi celle de mes questions dans votre creux de l'oreille, Michel Zlotowski, John Adams, après-demain à la Maison de la Radio, à l'Auditorium. Vous allez diriger l'Orchestre Philharmonique de Radio France dans la création française de Must the Devil Have All the Good Tunes pour piano et orchestre avec Víkingur Ólafsson au piano. On en parlera dans quelques minutes. Vous dirigerez aussi Stravinsky, le chant du Rossignol et puis le livre de Baudelaire qui est votre orchestration de chansons de Baudelaire mises en musique par Claude Debussy. Ce sera avec le ténor Ian Bostridge. Diriger sa propre musique, John Adams, est-ce que c'est le meilleur moyen d'être sûr qu'elle va être jouée comme vous le souhaitez?
I think that composers generally should not
Je pense qu'en général, les compositeurs ne devraient pas être chefs d'orchestre. Parce que dans la plupart des cas, ce ne sont pas les meilleurs chefs d'orchestre au monde. On le sait certainement grâce à l'histoire de Stravinsky, qui mettait des indications extrêmement précises sur ses partitions. Mais quand on en venait à diriger, et on le sait des enregistrements, sa technique était loin derrière son imagination de compositeur. Cela dit, j'ai été chef d'orchestre toute ma vie depuis mon adolescence, et je suis très gâté parce que j'ai pu travailler avec tous les plus grands orchestres du monde.
Et
avec ma propre musique, je pense que je peux amener un certain niveau d'expertise dans les performances, dans les façons de rendre ma musique.
Quel chef êtes-vous, John Adams? Ça demande d'être assez extraverti. N'est-ce pas le contraire du travail de composition?
Yes, that's a very good question.
Excellente question.
I think of myself actually as,
je me considère comme
musically rather bipolar.
Musicalement comme bipolaire. Quand je suis chez moi et que je compose, je suis quelqu'un de très introverti.
I can understand how Mahler was during the summers.
Je comprends parfaitement la façon dont se conduisait Mahler pendant l'été. Il avait une routine, une façon de conduire ou de façon de faire extrêmement claire. Mais mes voisins californiens me considèrent comme une sorte d'ermite. Mais quand je sors de chez moi et que j'entreprends un voyage tel que celui-ci, je dois me convertir en quelqu'un d'extraverti face à des centaines de personnes, souvent un orchestre qui ne me connaît pas, et créer une relation extrêmement personnelle avec les musiciens. C'est toujours une transition douloureuse, mais j'y suis habitué. Et si je n'avais pas ce côté extraverti de ma vie musicale, je serais profondément déprimé, je pense.
Avec quelle oreille écoutez-vous, John Adams, votre musique dirigée par d'autres? Une oreille bienveillante, très critique?
You know, I'm blessed by having my music
performed. Eh bien, c'est pour moi une bénédiction que ma musique soit dirigée véritablement par les plus grands interprètes du monde.
I can mention names like
Je peux citer des noms comme Simon Rattle, Gustavo Dudamel, S.A.P. Castellonen, David Robertson, et je pourrais poursuivre, et des grands musiciens. Ce concerto que nous allons exécuter ici à Paris, je l'ai composé pour un virtuose exceptionnel, un Joao. J'ai l'habitude de travailler et d'entendre ma musique jouée par des très grands artistes. Mais cela dit, C'est toujours un acte créatif de mettre une pièce au monde, et les chefs d'orchestre et les artistes, aussi doués soient-ils, font souvent des erreurs. Ils interprètent un petit peu de travers ce que j'ai écrit dans, sur les partitions. Donc c'est bien en fait d'être sur place et d'apporter les corrections.
Ça vous va si on écoute Kent Nagano, son dernier disque avec son orchestre, l'Orchestre Symphonique de Montréal?
J'ai malheureusement oublié mon bon ami Kent Nagano dans la liste des chefs d'orchestre que j'ai cité précédemment. Il vient de Berkeley en Californie, là où je vis aussi, et je le connais depuis son très jeune âge. Ses interprétations de ma musique sont parmi mes préférées. Particulièrement mon oratorio de la nativité El Niño, que Kent a présenté en première ici à Paris en 2000 au Châtelet.
Je vous propose une musique qui va réveiller ceux qui ne le sont pas encore. Short Ride to a Fast Machine. John Adams, l'Orchestre Symphonique de Montréal, dirigé par Kent Nagano.
Thank you.
Short Ride to a Fast Machine, John Adams, l'Orchestre Symphonique de Montréal, dirigé par Kent Nagano. John Adams est notre invité exceptionnel en direct ce matin sur France Musique, deux jours avant le concert à la Maison de la Radio. Ce sera à 20h et en direct sur France Musique de l'Auditorium de Radio France avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. La musique qu'on vient d'entendre, John Adams, date de 1986, si je ne me trompe pas. Vous acceptez toute votre musique passée ou parfois vous vous dites « j'aimerais retoucher cette musique qui a 35 ans »
Well, sometimes pieces were written such a long time ago.
Parfois les morceaux sont composés il y a tellement longtemps qu'il me semble que c'est quelqu'un d'autre qui les a composés. Mais heureusement, dans la plupart des cas, je continue à diriger ces morceaux moi-même et donc je reste en contact avec elle, avec eux plutôt. Et je dois dire que cet enregistrement de Kent Nagano est probablement l'un des meilleurs. Et je suis fier de cette performance.
Quel chemin vous empruntez depuis quelques années? Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui? On vous connaît notamment et on vous entend en France dans la musique d'opéra. Vous avez toujours envie d'opéra? Vous craignez parfois de vous répéter?
I think that if opera as an art form
si l'opéra comme forme artistique doit avoir un avenir, si ça doit avoir une présence certaine, ça doit parler de nos vies, les crises auxquelles l'humanité fait face actuellement. Malheureusement, la plupart des opéras sont tellement mariés au passé, la façon dont elles pensent pouvoir rester en contact, c'est par une mise à jour, en quelque sorte, du répertoire habituel. Donc c'est un mariage de Figaro qui se passe dans la Trump Tower ou un Rigoletto qui se déroule dans un Las Vegas contemporain. Oui, bon, d'une certaine manière, c'est prendre une œuvre du passé et la rendre pertinente aujourd'hui. Mais pourquoi ne pas avoir des opéras qui soient composés au sujet de thèmes qui soient importants pour les compositeurs d'aujourd'hui. C'est mon approche. J'écris un opéra sur le clash entre le communisme et le capitalisme, ce qui se produit en Chine, par exemple. J'en ai écrit un, composé un sur le terrorisme, Léon Klinghoffer. J'en ai composé un sur la création de la bombe atomique. Donc je pense que c'est la métaphore absolue pour notre existence existentielle et récemment un opéra sur le Gold Rush en Californie, la ruée vers l'or californienne, ce qui se produit actuellement dans la Silicon Valley, dans mon état de Californie. Donc j'ai toujours essayé d'utiliser la scène, la force poétique de l'opéra, et sa force musicale pour traiter et interpréter ma réaction à ce que signifie vivre à cette époque.
Vous en avez un opéra en ce moment dans votre tête, John Adams, ou plusieurs?
Oui, bien sûr. C'est la question que l'on me pose souvent et merci pour ne pas la poser. C'est est-ce que je vais écrire un opéra ou composer un opéra sur Donald Trump? La réponse est non. Parce que Trump, c'est quelqu'un sans aucune empathie. On ne peut pas composer un opéra sur quelqu'un qui n'a pas d'empathie. Mais l'opéra sur lequel je travaille en ce moment, c'est vraiment quelque chose de très différent pour moi. Sur une pièce de Shakespeare extraordinaire, Antoine et Cléopâtre. Et ce qui m'a attiré là, c'est que ses amants sont des gens plus âgés. C'est pas Roméo et Juliette. C'est pas des ados. Ce sont des gens qui, comme on dit, en quelques heures de vol. Et leur amour est adultère, à la fois tragique, et c'est totalement mêlé à la politique, Rome, l'Égypte, l'établissement de l'époque d'Auguste.
Et
véritablement, ça, vraiment, ça passe dans mon expérience américaine. Bon, laissons de côté l'adultère, hein, mais pour le reste, oui, la politique.
Après-demain, à 20h sur France Musique, en direct et à la Maison de la Radio, vous allez diriger John Adams, l'une de vos dernières créations. Ce sera l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Víkingur Ólafsson, grand pianiste islandais. Must the devil have all the good tunes? De quoi s'agit-il? Un concerto pour piano et orchestre? Votre troisième?
You know, I love language.
J'aime la langue. J'aime utiliser les langues, la langue, quand je cherche des titres pour mes œuvres. Et il n'y a rien de plus triste que d'appeler quelque chose concerto pour piano numéro 2 ou symphonie numéro
6.
Je crois qu'on peut choisir une image poétique pour aider les auditeurs à s'impliquer dans le morceau. Et ce concerto pour piano, c'est un concerto pour piano, est intitulé « Est-ce que le diable doit avoir toutes les bonnes musiques ?» C'est une phrase à laquelle je pensais. Je crois que c'est Chuck Berry qui l'a prononcé. Mais en fait, c'est pas lui, c'est Martin Luther King qui l'a prononcé. J'aime cette idée du diable. Je voulais composer un concerto pour piano où, dont la première partie serait diabolique.
Par
exemple, la Totendance était vraiment une telle virtuosité. C'est une œuvre que j'ai écrite aussi pour
this magnificent pianist Yuji Wang in mind.
Merveilleux pianiste Yuji Wagenmann. Cette expérience à Paris est exceptionnelle pour moi parce que je le fais avec un pianiste différent, qui est tout aussi brillant, mais avec une sensibilité complètement différente. Ólafsson, ce jeune pianiste islandais, très sensible. Et c'est ma première occasion de diriger cette œuvre. C'était un voyage de découverte pour tous, pour nous tous, pour Víkingur, pour moi et pour l'orchestre.
Création française, après-demain, ici à la Maison de la Radio avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Víkingur Ólafsson, en direct sur France Musique. La création mondiale, c'était il y a pile un an. On peut en écouter une petite minute. Le début de Must the Devil Have All the Good Tunes pour piano et orchestre de John Adams. C'était l'an dernier avec Yuja Wang, l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, dirigé par Gustavo Dudamel. Vous dirigerez cette œuvre en création française après-demain ici à la Maison de la Radio en direct sur France Musique. John Adams, elle a changé en un an cette œuvre?
Well, every work has probably what I would say a
je dirais que toute œuvre a probablement une période de développement.
The performers, of course, need time.
Les musiciens ont besoin de temps pour s'ajuster à une œuvre, pour la connaître. Nous, on a eu beaucoup de chance parce que
Yuja and Gustavo played the work over a dozen times.
L'a interprété une douzaine de fois. Il a fait des tournées en Asie.
They made a wonderful recording, which will
Ils ont fait un enregistrement extraordinaire qui sera
Deutsche Grammophon
mis en vente par la Deka Deutsche Grammophon le mois prochain.
I have to listen and make adjustments.
Il faut que j'écoute, que je fasse des ajustements.
You know, then things, et puis, someone else plays a work and
quelqu'un d'autre joue l'œuvre, on l'entend un peu différemment.
It's wonderful over
et c'est merveilleux, avec le temps, 10 ans, 20 ans, 30 ans, d'entendre des approches différentes par des chefs d'orchestre différents. Et entendre des choses que vous-même, le compositeur, ne savez pas qu'il existait dans cette musique.
Après-demain, vous allez diriger également le chant du Rossignol de Stravinsky, Debussy que vous avez orchestré, des poèmes de Baudelaire, mis en musique par Debussy. On y reviendra dans un instant. Vikingur Olafsson va jouer aussi des pièces de Philip Glass. C'est vous qui avez choisi tout ce programme ?
Yes, the good thing about the Radio France concerts is
la bonne chose avec les concerts de Radio France, c'est que c'est pas le truc habituel, disons. Moi, j'étais invité à produire tout programme qui m'intéressait. Je savais que Vikingur avait enregistré un merveilleux disque sur la musique de Philip Glass. Donc, avec cet orchestre, on va avoir Vikingur qui va jouer trois études de Philip Glass. Et je connais Philip depuis 35 ans. J'ai dirigé la première mondiale de sa symphonie la plus récente, il y a exactement un an. Je crois que ces courtes pièces de piano de Philip Glass sont parmi la meilleure musique qu'il ait composée récemment. Et je suis très heureux de les présenter au cours de ce programme. La musique de Philip Glass est toujours très controversée, c'est sans l'ombre d'un doute. Le compositeur vivant le plus connu, il est arrivé à un niveau de notoriété publique qui va bien au-delà de la musique contemporaine.
And you know there are still many orchestras.
Il y a beaucoup d'orchestres dans le monde qui refusent encore de jouer sa musique. Mais si vous demandez à n'importe quel jeune compositeur quelle a été leur plus grande influence, la plupart diront que Philip Glass est dans cette liste-là.
Jane Adams, ça vous agace qu'on vous associe tous les trois à Adams, Glass, Reich, un peu comme une sainte trinité américaine?
You know, it's very interesting. When I come to Europe,
c'est très intéressant parce que lorsque je viens en Europe, les gens du monde de la musique classique semblent être encore obsédés par le style.
So I'm still in their minds as a minimalist.
Moi, dans leur esprit, je suis toujours un compositeur minimaliste. Même si je pense que la dernière œuvre de moi serait ne peut pas être interprétée comme une œuvre minimaliste depuis 87, certainement. Non, non. Il y a certains éléments de minimalisme dans mon œuvre La Porte de la Chine, mais j'utilise les techniques du minimalisme, d'accord? Des petits motifs musicaux répétés, une pulsation régulière, une harmonie tonale, mais je les ai intégrés dans ce que j'ai recherché en tant que langage plus compliqué, plus expressif. C'est normal dans le monde de l'art que des idées révolutionnaires ça émerge et que la génération suivante s'en empare et l'investisse avec une complexité plus émotionnelle.
Vous parlez de la façon dont vous êtes perçu en Europe et en France, mais vous êtes aujourd'hui très célébré en France. I was looking at the ceiling and then I saw the sky était donné récemment à Lyon. Ce sera donné à nouveau très prochainement à Paris, au Théâtre de l'Athénée, du 27 mars au 4 avril. Vous serez également célébré votre musique pour piano et pour quatuor à cordes à la Scala, Paris, le 17 mars. C'est un paradoxe. Vous avez été parfois mal vu par un milieu et admiré par le public, avec des disques qui se sont beaucoup vendus depuis longtemps.
Vous savez, je suis arrivé à un certain âge, je suis arrivé à maturité, disons, dans les années 60-70, musicalement, un moment où le modernisme était très prestigieux. Et la personnalité la plus prestigieuse de ce style, c'était Pierre Boulez.
Ma musique
était très opposée, en fait, à l'esthétique boulezienne.
Et
cette esthétique que lui a promue. Quand je suis d'abord arrivé à Paris, certaines personnes étaient très heureuses de m'utiliser comme un aiguillon pour piquer Boulez. C'était absurde parce que Boulez était une des plus grandes personnalités musicales du XXe siècle. Et depuis sa mort, mon appréciation et mon admiration pour lui n'a fait que croître. Et en fait, j'ai écrit une longue critique pour le New York Times au sujet de sa conférence au Collège de France. Ce qu'il a dit au Collège de France. Et les compositeurs les plus jeunes aujourd'hui ne sont absolument pas intéressés par Boulez. Ils ne s'intéressent pas à son travail et à son point de vue. Et je pensais que c'était ironique que ce soit moi qui était considéré, en fait, à l'époque, comme l'opposé de Boulez. Et voilà, à mon âge, c'est moi qui le défends. Et c'est moi qui dis aux jeunes générations de compositeurs américains qu'ils devraient lire ce livre très important.
Quelques notes d'Alléluia Junction, deuxième mouvement de John Adams, sous les doigts d'Orly Shaham et Yon Kimouma Parker. On entendra tout le 17 mars à la Scala Paris avec Marie et Momo Kodama. Concert également de I Was Looking at the Ceiling and Then I Saw the Sky. Ce sera à l'Athénée fin mars. Et puis ce concert vendredi soir où vous dirigez John Adams, votre musique, mais aussi Stravinsky, mais aussi Debussy que vous avez orchestré. Ce sera avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, en direct sur France Musique, également en direct en vidéo sur Facebook Live et sur le site de France Musique. Et on vous retrouve dimanche soir sur France Musique dans le carrefour de la création, où vous aurez le temps de vous exprimer à nouveau. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Adams, d'être venu ce matin en direct sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.